Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Et oui, il est 6h avant minuit, merci d'écouter l'émission d'actualité locale de Syllab. Petit sondage autour de la table, est-ce que vous aimez bien les castors ? Oui, ouais, ça va.
Oui,
c'était plutôt mignon. En tout cas, ils viennent de démontrer leur intelligence et leur débrouillardise face à une humanité qui patine. J'avais envie de vous en parler. Ça se passe en République tchèque, à 50 km de Prague. En quelques jours, une famille de castors a construit un barrage dans une zone naturelle protégée qui attendait des travaux d'aménagement et de protection depuis 7 ans. 8 rongeurs en ont eu, semble-t-il, marre d'attendre. Mieux que ça, ils ont construit le barrage pile au bon endroit pour transformer le site protégé en zone naturelle humide. Le projet, enlisé depuis plusieurs années pour des raisons de procédures administratives, a été réalisé en seulement 2 nuits grâce à quelques amas de pierres, de boue et de bois, ce qui a ralenti le débit de la rivière. Les petits mammifères amphibiens ont même fait économiser 1 million d'euros à la commune sur laquelle se situe la rivière. Et leur travail gratuit, il est beaucoup plus qualitatif que ce qu'auraient fait les humains, selon l'agence tchèque de protection de la nature. Le barrage joue un rôle de filtration, tout en créant des retenues d'eau plus petites et plus nombreuses que dans une construction humaine. Comme quoi, on est loin d'être les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Perso, aux prochaines élections, je vote Castor. Tout de suite, le flash d'Aglaé.
Un potentiel échange de territoire entre l'Ukraine et la Russie, c'est sans compter le refus de la Russie. En effet, le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a aujourd'hui annoncé que Moscou refuserait fermement cette proposition du président ukrainien. Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à un échange de territoire dans une interview accordée cette semaine au journal britannique The Guardian. Cette transaction aurait lieu dans le cadre d'éventuelles négociations de paix organisées par les États-Unis. Donald Trump s'est en effet engagé à de multiples reprises de mettre rapidement fin à cette guerre. Toujours dans cette interview donnée au Guardian, Volodymyr Zelensky a déclaré que ceux qui nous aident à sauver l'Ukraine auront la possibilité de la rénover avec leurs entreprises et les entreprises ukrainiennes, priorisant les États-Unis. Le président ukrainien rencontrera vendredi le vice-président américain J.D. Vance à la conférence sur la sécurité de Munich. Nous appelons la communauté internationale à nous soutenir. Tels sont les mots de Benjamin Viennot, responsable de gestion de crise pour Action contre la faim, aujourd'hui sur France Info. L'ONG alerte sur le fait que 10 000 enfants sont en danger de mort en République démocratique du Congo, ne pouvant être pris en charge après la suspension d'aides financières américaines. 49 millions de dollars permettant de soutenir 21 projets dans le monde, voilà ce qui manque après la signature d'un décret de Donald Trump le jour même de son investiture. Et cela alors que les États-Unis représentent 33% du budget opérationnel pour 2025 de l'ONG. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don sur leur site internet actioncontrelafaim.org. Après Paris et son sommet sur l'intelligence artificielle, petit séjour à Marseille pour le président. Emmanuel Macron et Narendra Modi, le Premier ministre indien, se sont rendus ce matin dans la cité phocéenne. Le but, renforcer et afficher leur entente et leur partenariat. Dans la matinée, ils ont d'abord rendu hommage aux soldats indiens morts en France pendant la Première Guerre mondiale, avant d'inaugurer le nouveau consulat général d'Inde. Ils se sont ensuite rendus à plusieurs endroits, dont le siège de CMA-CGM, un des leaders du transport maritime, ou encore le chantier du réacteur expérimental de fusion nucléaire dénommé ITER. Narendra Modi doit prochainement se rendre aux États-Unis. François Bayrou aurait-il protégé des pédocriminels dans l'affaire Notre-Dame de Bétharram ? C'est bien ce dont est accusé par Mediapart le Premier ministre. Cette affaire massive est celle d'un demi-siècle d'agressions sexuelles et de violences physiques sur mineurs ayant eu lieu dans l'école béarnaise catholique Notre-Dame de Bétharram. Aujourd'hui, 112 plaintes pour des faits s'étalant des années 1950 aux années 2010 ont été déposées contre surveillants et prêtres de l'école. Cyriane nous décrypte l'enquête menée par le média indépendant.
Interpellé hier à l'Assemblée nationale durant les questions au gouvernement, François Bayrou a démenti en bloc ces accusations. Monsieur le Premier ministre, pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves de Notre-Dame de Bétarame, victimes de violences pédocriminelles ? Questionne le député LFI Paul Vanier, accusant le maire de Pau d'avoir été au courant des faits. Vous avez toujours affirmé n'avoir rien su, rien vu, rien entendu, a-t-il poursuivi. En cause tout d'abord, sa présence dans la vie politique régionale depuis très très longtemps, et surtout lors des premières plaintes concernant l'établissement. En 1996, le père d'un élève ayant perdu une partie de l'audition à cause des coups extrêmement violents par un surveillant dépose plainte. Il rédige aussi un tract alertant les autres parents d'élèves sur le traitement de leurs enfants. À l'époque, l'affaire prend une amplitude nationale. Si bien que, comme l'a retrouvé Mediapart dans des archives, Antenne 2 diffusait en avril 1996 un reportage sur le sujet. François Bayrou est alors à ce moment ministre de l'Éducation nationale et président du conseil régional de la même région. L'homme scolarise plusieurs de ses 6 enfants dans l'école, dont Calixte, son fils camarade de l'enfant handicapé à vie par les coups du surveillant. Aujourd'hui, François Bayrou affirme n'avoir jamais entendu parler de cette histoire, disant se rappeler d'une, certes, petite histoire de claque, oui, peut-être. À l'époque, un mois après l'affaire, l'ex-ministre de l'Éducation se rendait sur place pour soutenir l'établissement. Il déclarait alors dans les colonnes du quotidien Sud-Ouest. Nombreux sont les Béarnais qui ont ressenti ces attaques avec un sentiment douloureux et un sentiment d'injustice. Toutes les informations que le ministre pouvait demander, il les a demandées. Toutes les vérifications ont été favorables et positives. Autrement dit, il affirmait que tout allait bien. Pourtant, 2 ans plus tard, nouvelle plainte. L'ancien directeur de Notre-Dame de Bétarame, le père Caricard, est mis en examen, accusé d'avoir violé un enfant interne de l'établissement. Il se suicide quelques semaines après. Selon plusieurs témoignages et les archives de la presse, l'épouse de François Bayrou s'était rendue aux obsèques. De son côté, l'époux rencontre à Pau, le juge de l'instruction de l'affaire, dont il était proche. Aujourd'hui, il nie encore une fois ne pas avoir été au courant et n'avoir jamais eu de rendez-vous avec ce juge. Plusieurs personnes, témoins ou victimes, ont affirmé à Mediapart avoir envoyé des courriers à l'élu, dont Jean-Marie Delbos, ancien élève âgé de 78 ans, ayant subi plusieurs viols de la part d'un religieux dans les années 1950, alors adolescent. En 2023, il a été reconnu victime par l'Église et indemnisé après un accord avec la Commission Reconnaissance et Réparation de l'Église. Un an plus tard, il envoie une lettre dans laquelle il détaille les agressions sexuelles dont lui et ses camarades ont été victimes. Un courrier envoyé avec accusé de réception, accusé conservé par Jean-Marie Delbos. Preuve publiée par Mediapart hier après la réponse du Premier ministre à la question du député LFI Paul Vanier. On y constate clairement la date, l'adresse de l'hôtel de ville de Pau et le nom du destinataire, François Bayrou, le maire. La victime n'aura jamais de réponse et témoigne à Mediapart. Moi, je ne suis qu'un pauvre bélé, un domestique en Béarnais. Je suis Baudor que Bayrou n'en a rien à faire de moi.
Dans sa réponse au député Paul Vanier, le Premier ministre a dit vouloir porter plainte pour diffamation. L'histoire des victimes de Notre-Dame de Bétarame n'est malheureusement qu'une parmi tant d'autres. C'est pourquoi cette progression dans le champ de la protection de l'enfance est la bienvenue pour les associations de protection des enfants, la création d'un haut commissaire à l'enfance. Cette nouveauté, annoncée il y a quelques temps par Emmanuel Macron, a été officialisée hier dans le journal officiel de la République française. Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles de France, présentera cette nouvelle institution au Conseil des ministres jeudi. Ce dernier a notamment pour objectif de promouvoir, de mettre en œuvre et d'évaluer des politiques en matière de protection de l'enfance, de santé de l'enfant, de soutien à la parentalité, d'adoption de petite enfance et d'accueil du jeune enfant. Hier, un jeune de 15 ans a été arrêté chez lui. La raison, il tirait à la carabine au plomb depuis sa fenêtre du premier étage d'un immeuble aux abords du pont Saint-Hélier. L'adolescent a ouvert le feu à partir de 11h15. Parmi les personnes qui circulaient, 4 ont été légèrement blessées. Une équipe de la BAC est rapidement intervenue et l'a interpellé. Pour rester dans le terrifiant mais littéraire cette fois, rassurez-vous, Frédéric Paulin, écrivain rennais, a obtenu le 54e prix Mystère de la Critique. Le livre concerné, Nul ennemi comme un frère. un polar géopolitique parlant de la guerre civile au Liban. Le deuxième tome, Rares ceux qui échappèrent à la guerre, sort le 27 février. Un monde mêlant réalité et fantastique, voilà ce que propose la famille Bouglione avec son exposition L'Odyssée lumineuse. Regroupant plus de 1200 structures de lumière dans tout le parc du Thabor, tous les soirs à 18h30, le parc rennais laisse place à la magie et au jeu d'ombre et de lumière avec un spectacle d'ombre chinoise à l'affiche. Muni de son billet d'étudiant, Eva s'y est rendue et nous dévoile dans son reportage des exclus du monde lumineux.
Eh ben, on se disait que s'il n'y avait pas cet événement, personne ne serait dans ce parc de toute façon en pleine nuit. Donc c'est plutôt cool au mois de février d'être dans un parc en pleine nuit.
Un soir de février à Rennes ressemble souvent à une soirée pluvieuse, avec du vent marin glaçant nos phalanges devenues rouges. Mais pas ce soir. Ce soir, pour Mathilde, mais aussi Victoria, Émilie, Fanny et Françoise, toutes les générations sont d'accord pour dire que c'est une belle soirée.
C'est joli, c'est féerique.
Ah oui, c'est magnifique.
Ah, c'est super,
ouais. Super joli, hyper bien réalisé.
Ça anime la ville, c'est bien, ça fait une sortie. Et puis c'est bien c'est gay, d'honorer c'est... les artistes qui font ça.
Oui. Ah, mais Fanny et Françoise semblent avoir un petit souci.
Je crois qu'on fait le tour à l'envers, mais on nous a dit de faire le tour comme ça, parce qu'il y a le spectacle à 21h30, donc il ne faut pas qu'on le loupe.
Mais oui, le spectacle d'Ombromanie du duo des Black Fingers va bientôt commencer, et Sol vient justement d'y partir.
Il y a quelques ombres et images qui étaient super belles, notamment l'oiseau et puis d'autres, mais je ne vais pas tout dire.
Un certain avis sur le spectacle revient tout de même chez les Rennais et Rennaises, comme celui de Frédéric ou de Emma et Louane.
Ouais, je vais être totalement transparent, je trouve que c'est un peu dépassé, mais en tout cas, ils ont réussi à prendre tous les enfants avec eux, je pense.
On trouvait que c'était dans une époque, quoi. Mais c'est ce qui fait le charme.
Donc ouais, c'était un peu à l'ancienne, mais on voit pas ça tous les jours, donc c'est toujours cool de voir autre chose.
Voir autre chose, quelque chose de nouveau. C'était un des objectifs de Francesco Bouglione, le producteur de l'exposition.
Les visiteurs peuvent découvrir le parc comme ils ne l'ont jamais vu, parce que les parcs sont jamais accessibles de nuit. Et en plus, mis en lumière, mis en scène. J'aime bien dire que ce sont des œuvres. On dit souvent exposition de lanterne, mais c'est des œuvres parce qu'à chaque fois, ce sont des pièces uniques, réalisées par des artistes à la main. Il n'y a pas de moule, il n'y a pas de gabarit, rien n'est préfabriqué.
Et à noter que Francesco n'a pas choisi notre très chère ville par hasard.
Vous savez, pour la famille Bouglione, la Bretagne est un peu la région de cœur. Les visiteurs sont très réceptifs, aiment beaucoup l'exposition. Donc on est très bien ici. On aimerait même pouvoir presque prolonger ou revenir.
Vont-ils revenir ? Peut-être, mais une nouvelle expérience est... L'expérience est déjà en préparation chez les Bouglione. No spoilers, en tout cas, toutes les informations sur l'Odyssée lumineuse sont sur le site 1001lumière.fr.
Merci Aglaé, on continue de parler art et exposition, surtout tout de suite.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Veste florale et pince-œil dans les cheveux, j'ai face à moi ce soir Delphine Gallois, directrice du Musée des Beaux-Arts de Rennes. Bonsoir.
Bonsoir.
Et ce n'est pas la seule invitée, puisque elle a les cheveux détachés et un collier à la feuille argentée au cou. C'est Célène Tonon, conseillère municipale déléguée au musée, à la lecture publique et à la culture ludique. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez donc ce soir présenter le nouveau musée, la nouvelle extension en gros du musée des Beaux-Arts qui a ouvert à Maurepas, juste en face de la station de métro du Gros Chêne. Déjà, est-ce que ça fait 2 semaines qu'il a ouvert ce musée ? Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que c'est un succès ?
Alors oui, c'est un succès. Enfin, en tout cas, on a beaucoup, beaucoup de visiteurs et de visiteuses. On a pu accueillir 1700 visiteurs le premier week-end. Et la semaine dernière, on a accueilli 900 visiteurs, ce qui est énorme vu la petite jauge. Donc on est très contents.
Et on va pouvoir revenir un peu sur l'origine de ce projet. D'où ça vient, d'où ça part l'idée d'ouvrir un deuxième musée des Beaux-Arts à Rennes?
C'est une idée qui a germé à la fin du mandat précédent, à peu près en 2019. Il y a ce constat, il y a tout ce projet de rénovation urbaine à Maurepas qui est mené avec les bailleurs sociaux et notamment Archipel Habitat à cet endroit-là. Cet immeuble d'habitation qu'on surnomme la banane, qui doit être réhabilité comme un peu tout le reste du quartier. Il faut se souvenir que quand même, dans les années 50-60, ces logements qui ont été faits à un moment où on avait besoin de loger beaucoup de monde, et l'exode rural, etc. Et qui avaient des qualités, mais pas celles de durer dans le temps. Et donc là, il y a ce besoin de réhabiliter tout, et on en profite pour réaménager les bas de tours et pour faire... des trucs chouettes. Alors, il peut y avoir des petits commerces, il peut y avoir des idées un peu novatrices. Là, dans quelques années, on va avoir un tiers-lieu entre la bibliothèque, le resto pépite et la cohue qui va émerger aussi. On est en train de finir d'étudier les plans et de réfléchir au modèle de gouvernance. Là, on avait cette opportunité. On s'est dit, ah, mais tout le long de la banane, qui est quand même, comme son nom l'indique, un immeuble qui est tout en long, on a l'opportunité de faire à la fois un musée des beaux-arts, une ludothèque et un espace d'accueil des jeunes enfants. Et du coup, c'est ça qui est en train de se concrétiser avec, pour le moment, le musée, bien entendu, l'espace d'accueil des jeunes enfants et la ludothèque, ça viendra dans un second temps.
Et on sait quand est-ce qu'elle ouvrira ou pas
Je crois d'ici 2 ans, c'est ça, 1 ou 2 ans?
Un an, ouais. Enfin normalement.
Normalement.
On ne se prononce jamais trop sur la date des chantiers avant la livraison. Mais
c'est ça,
ne
serait-ce que là, le musée, nous, nos premières estimations, c'était il y a 2 ans. Là, en fait, on a pu l'inaugurer qu'en ce début d'année. C'est assez fréquent dans le bâtiment. Si je peux revenir aussi sur la genèse de ce projet et comment il s'est mené, ça s'est fait évidemment aussi avec la validation des Rennaises et des Rennais. En fait. C'est-à-dire qu'en 2020, début 2020, en mars, il y a eu les élections. Et dans notre programme de mandat, parce que Delphine Gallois, elle est directrice du musée. Elle est une agente municipale qui met en œuvre nos politiques à nous qui avons juste le mandat des citoyennes et des citoyens, des habitantes et des habitants de Rennes. Et donc nous, on a un projet politique qui est mis en œuvre par des gens dont c'est le métier. Moi, c'est pas du tout mon métier de travailler dans des musées. Et c'est une bonne chose parce que c'est pas ça que je représente dans la collectivité. Et du coup. Là, on a présenté aux Rennaises et aux Rennais ce projet qui était, à l'époque du projet, à l'époque, c'était présenté comme une annexe. Et en fait, on s'est rendu compte, dès le début du mandat, que c'était une très mauvaise idée que ce soit une annexe. Ça devait être un site du musée à part entière. Donc, on parle vraiment d'un site à Morpa, un site, le site Groschen, un site Kézola. Bien entendu, il y a une différence de superficie entre les deux. Les équipes du musée interviennent dans les deux sites pour proposer à chaque fois des propositions de grande qualité scientifique et avec le même niveau de médiation, bien entendu.
Et du coup, justement, le lien, qu'est-ce que c'est le lien vraiment entre ces deux lieux? Comment est-ce qu'ils interagissent entre ces deux musées?
Ils ont la même directrice, déjà.
Oui, alors la même directrice et la même équipe. Et ainsi que la même collection. Un musée, c'est une équipe, mais aussi une collection des visiteurs et des visiteuses. Et donc, il faut s'imaginer, comme Célène Tonon l'a indiqué, que désormais, on a un site en plus, mais on a le même projet scientifique et culturel qui se déploie sur ces espaces et la même collection à valoriser dans un parcours permanent et dans des propositions d'exposition temporaires. Donc, on ne fait pas de hiérarchie entre les deux sites, on a juste un peu plus d'espace mètre carré pour l'exposition.
En fait, c'est l'occasion de rappeler un truc qui est aussi vraiment central dans notre projet, vraiment hyper important. C'est que dans ce besoin de ne pas hiérarchiser, là-dessus, il y a les droits culturels, hein, le fait de ne pas hiérarchiser les cultures et les expressions culturelles, et non pas seulement de garantir l'accès à une culture descendante de centre-ville ou bourgeoise ou tout ce que vous voulez mettre comme qualificatif, mais en fait de favoriser, d'outiller tout un chacun et chacune pour prendre part à la vie culturelle et garantir les moyens d'expression sous la forme qui leur correspond. Ça peut être la peinture, la sculpture, la danse, etc. Et là, on a eu ce besoin, du coup, de dire on met le paquet sur la médiation dans le quartier. Il ne faut pas que ça débarque comme un ovni dans un quartier où il y a déjà une vie riche d'un point de vue associative et que c'est juste l'institution de centre-ville qui débarque et qui n'a rien à voir avec ce qui se passe. Non, c'est vraiment inclus. Il y a une équipe de médiation, notamment une médiatrice à l'époque, qui a été recrutée dès 2021 pour assurer justement le lien, alors que le musée n'était pas encore ouvert. Il a ouvert là, il y a quelques semaines. Donc vraiment, pour faire ce travail de fond, de terrain, avec les acteurs de quartier, les associations, les habitantes et les habitants, etc. Et néanmoins, c'est pas un équipement de quartier, c'est un équipement du quartier. Et ça, c'est super important. C'est pas juste une question d'article. C'est que on ne se destine pas seulement et uniquement aux habitantes et aux habitants de Maurepas, même si, évidemment, c'est chez eux, en fait. Mais le but, c'est de s'adresser à tout le monde de la métropole et même éventuellement des gens qui passeraient par là, qui seraient perdus, pourquoi pas. Le principe, c'est un équipement de la ville de Rennes. Qui potentiellement doit pouvoir venir de Briquigny, de la Bélangerie, du Landry, peu importe en fait, de Villejean, et aller à ce musée-là. Et c'est même, en fait, il y a deux expos dans l'année, une d'hiver, une d'été. Et celle d'hiver, elle est faite en concertation avec les habitants. On va vraiment mettre à l'honneur les droits culturels et le travail de partenariat avec les associations. Tout en ayant quand même un chapeautage scientifique de qualité avec les conservateurs du musée. Enfin, on n'abandonne pas non plus les gens en faisant juste, entre guillemets, même si c'est aussi important, du socio-culturel, mais c'est vraiment une proposition culturelle. Et l'été, là, c'est Exporama. Donc on a la proposition du musée de centre-ville, qui est Zola, mais qui est prolongée sur le musée Maurepas. Ou alors, on peut considérer aussi qu'on commence sa visite à Maurepas et on nous invite à prolonger notre visite qu'est Zola. Donc vraiment, il y a, le long de la ligne B, il y a deux ou trois arrêts entre les deux. C'est vraiment l'occasion de pouvoir créer aussi des synergies et que ce soit un musée des Beaux-Arts qui est sur deux jambes, mais un musée des Beaux-Arts sur deux sites à part entière.
Et justement, vous l'avez dit, il y a deux expositions qui sont temporaires.
Ouais.
Pourquoi avoir choisi de ne pas faire de collection qui est tout le temps là, comme au Musée des Beaux-Arts ?
Alors, il y a déjà des raisons très pratiques qui sont que les objets, et c'est le cas notamment d'un certain nombre de petits objets d'art fragiles ou par exemple d'œuvres en art graphique, peuvent pas être exposées de façon permanente parce que l'exposition à la lumière, par exemple, peut les abîmer. Donc, de toute façon, on n'aurait pas pu les laisser de façon permanente. Et dans la mesure où on considère que ces nouveaux mètres carrés sont aussi l'opportunité pour nous, musées, d'aller travailler de nouveaux récits sur les œuvres en lien avec les habitants. C'est important aussi de pouvoir à chaque fois renouveler les propositions. Donc ça passe par des nouvelles façons de raconter les objets, mais aussi ça passe par le fait d'exposer de nouveaux types d'objets. Dans le musée en centre-ville, vous le savez sans doute, on a quand même des murs qui ne sont pas extensibles et donc pas assez de place pour exposer l'ensemble de la collection. Donc l'idée, c'était plutôt de pouvoir saisir l'opportunité de ce nouvel espace pour présenter par roulement la richesse de la collection du Musée des Beaux-Arts de Rennes.
Elle contient combien d'œuvres, la collection de Rennes ?
Alors, on est environ sur 30 000 objets. Mais tout type d'objets confondus, c'est-à-dire qu'on a des peintures, j'ai évoqué les œuvres d'art graphique, mais aussi des petits objets d'art, que ce soit de l'archéologie ou des objets extra-occidentaux. Donc on a vraiment la chance d'avoir une collection très très riche, une sorte de mini-Louvre, qui permet en fait de raconter tout et n'importe quoi sur le monde et l'histoire de l'humanité.
Donc en fait c'est une infime partie qui est exposée en réalité dans le musée, quoi.
Tout à fait. Alors après, il faut quand même s'imaginer que les chefs-d'œuvre sont exposés, rassurez-vous, on ne cache pas aux Rennais et Rennais les chefs-d'œuvre. Vous avez aussi un certain nombre d'œuvres qui sont intéressantes parce que archéologiques, parce que témoignant d'une période historique, mais qui, en tant que telles, mériteraient pas forcément d'être exposées, sauf dans le cas d'une exposition thématique. Donc, les pièces les plus importantes sont bien exposées dans le parcours permanent.
Et du coup, pour l'exposition qui a été choisie, qui est en cours au musée de Maurepas, l'exposition Fantaisie, les habitants et habitantes ont pu piocher un peu dans cette collection. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est déroulé et même nous parler un peu de cette exposition ?
C'est une initiative aussi, certes, qui vient aussi de notre volonté politique, comme je le disais, non seulement d'aller vers, mais aussi de droit culturel, hein, mais qui est aussi l'initiative de l'artiste, Isabelle Arthuis. Isabelle Arthuis, elle a dit, mais en fait, il faut complètement qu'on puisse impliquer les habitantes et les habitants et qu'on puisse leur faire visiter ces réserves. donc les habitantes et les habitants, sont allés dans les réserves du musée, sont allés s'approprier un petit peu, entre guillemets, ils ne sont pas repartis avec, mais s'approprier, eux, des œuvres où ils ont dit bah, « en fait, ça, ça me parle ». Isabelle Arthuis, qui à la base est photographe, les a pris en photo avec, et ensuite il y a eu tout un travail de sélection, alors déjà pris en photo avec un certain angle, un certain cadre, etc., enfin, c'est son travail, et il y a eu tout un travail de concertation, notamment avec François Coulon, conservateur du musée, pour aller sélectionner des œuvres du musée qui ne sont pas forcément celles qui ont été choisies par les habitants, mais qui étaient connexes, qui s'y rapprochaient, pour bah, faire une muséographie avec, parce que ça, c'est un métier à part entière aussi, et donc concevoir cette exposition en montrant à voir et la partie réalisée, co-construite avec les habitantes et les habitants, et cette partie bah, plus sourcée scientifiquement, donc donnée à voir. C'est en fait, ça montre bien l'ADN de ce projet-là dès le départ, parce qu'il y a la co-construction, les droits culturels dont j'ai déjà parlé, mais il y a aussi cette frustration dont parlait Delphine Gallois d'avoir des réserves du musée où certaines œuvres n'ont jamais l'occasion d'être exposées. Et donc, c'est aussi rendre aux Rennaises et aux Rennais ce qui leur appartient à ce moment-là, en disant, bah, en fait, on aura plus de mètres carrés, on va faire que des expos temporaires et on va faire tourner des choses qui dorment dans les réserves.
Et donc, en bas, elle se sépare en deux parties un peu l'exposition. En bas, il y a des tableaux et en haut, des objets. Du coup, les tableaux, c'est aussi des tableaux de la collection qui ont été choisis par des habitants et des habitants.
Par colorimétrie. Ça vous a été raconté, ça ?
Non. Mais j'ai vu sur le site qu'il y avait écrit que les visites, c'était des visites pas comme les autres. Pourquoi c'est des visites pas comme les autres ?
Alors, je ne peux pas vous dire précisément pourquoi elles ne sont pas comme les autres. Je vous invite à les suivre. C'est sûr qu'avec ce nouveau site, on a recruté trois médiatrices qui peuvent offrir vraiment une proposition de médiation très étoffée. Et ça aussi, ce n'est pas comme les autres, au sens où je pense que le ratio nombre de médiatrices par mètre carré est quand même très important, ce qui montre l'ambition du musée d'être vraiment au service aussi de la médiation culturelle. Peut-être pour revenir sur la partie de l'exposition, comme l'a expliqué Célène Tonon, il y a à la fois le choix des habitants de par leur sensibilité d'un certain nombre d'objets, mais il y a aussi la sensibilité de l'artiste qui a choisi des objets en fonction de son regard de photographe. Et là, en l'occurrence, elle a sélectionné des peintures en fonction de la lumière, de la couleur, pour proposer un peu presque un jour qui se lève et qui se couche à travers différentes peintures. Et peut-être pour terminer sur cette exposition, aujourd'hui, et c'est voilà, le choix, encore une fois, d'Isabelle Arthuis pour cette expo inaugurale, on a une très grosse différence entre le rez-de-chaussée de l'espace et le premier étage avec les vitrines. Mais en fait, l'espace est quand même très, très modulable. Et donc, c'est pas impossible que pour les prochaines expos, on n'ait pas du tout deux parties, mais au contraire, une installation qui se déploie sur l'ensemble du site, voire même dans les prochaines années, et c'est toute la richesse d'être voisin de la ludothèque et de l'espace d'accueil de jeunes enfants, pourra très bien peut-être se déployer dans l'ensemble des espaces. Donc on verra bien comment le site va vivre. On est impatient justement de pouvoir tester des choses dans les prochaines années.
Je ne sais pas si on a deux minutes pour que je rajoute un tout petit truc.
Si.
Il y a quelque chose qui est très intéressant aussi, je trouve, et qu'on n'a pas encore bien... Mais j'y pensais, on parlait du service de médiation. En fait, dès 2020, dès le début du mandat, on a vraiment mis le paquet là-dessus, parce qu'on s'est dit, dans le programme de mandat, il y a la gratuité des collections permanentes des musées à Rennes et des abonnements à la bibliothèque municipale et métropolitaine des champs libres, mais cette gratuité, si elle s'adresse qu'à des gens qui sont déjà intéressés par les musées, c'est une mesure de droite en réalité. C'est-à-dire, on va parler à des gens qui sont déjà aficionados de la culture, etc., et de la culture légitime institutionnelle, mais en fait, c'est pas du tout notre objectif. Donc on met le paquet sur la médiation, on met le paquet sur la com, on revoit la charte graphique, entrée libre au musée, etc. Et le but, c'est vraiment de casser cette impression justement de quelque chose de très lourd et de très bourgeois de centre-ville qui écrase tout le monde et qui fait qu'on a peur de se sentir insulté en visitant le musée. Et à l'inverse, on va vraiment vers les gens. et on fait vraiment des propositions qui intéressent des gens qui sont pas juste bac plus 5 en histoire de l'art, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs, et je m'en revendique. Et le principe, c'est de dire on a tous les agents et toutes les agentes d'accueil du musée habituellement qui sont dans un service à part entière. Là, en fait, on les a directement rattachés au service des publics et de la médiation. Donc tout le monde est impliqué dans ce travail de médiation. La responsable du service des publics chapeaute tout ce petit monde-là et propose du coup des nouveaux... Alors déjà, vous pouvez vous dire que toutes les formations par rapport aux situations de discrimination, machin, tout a été fait, mais on va au-delà. C'est-à-dire, il y a des travaux qui ont été faits à destination de la toute petite enfance. Aujourd'hui, parmi les gens qui sont particulièrement destinataires de nos dispositifs, il y a les crèches et les assistantes maternelles. Avec les médiatrices qui ont cousu main des trucs pour que les enfants, les tout-petits-enfants dès 1 an puissent s'approprier les textures des œuvres qu'ils sont en train de voir. Et c'est aussi parce que, en accueillant les tout-petits, alors certes c'est un éveil culturel à l'art, etc., mais en plus ça permet aux personnes qui s'en occupent à ce moment-là de se sentir légitimes à revenir au musée. Donc, double effet. Il y a un travail particulièrement poussé sur l'accessibilité handicap avec l'expo qu'on déploie actuellement, Prière de toucher, où justement même les valides sont incités à se mettre en situation de justement non-voyance avec le bandeau, etc., pour comprendre que en fait ils vont percevoir le monde différemment et pouvoir avoir une autre vision, si je peux me permettre, des œuvres qu'ils vont découvrir. Donc ça, ce travail de fond, il est mené, et avec le succès qu'on constate, ça c'est un grand plaisir, c'est de voir que en fait, malgré le fait que la gratuité elle s'applique à tout le monde, les catégories de personnes suite aux études de public qu'on a fait qui sont le plus concernées par l'accroissement énorme de la fréquentation qu'on constate chaque année, c'est effectivement les étudiants, enfin les moins de 26 ans de façon générale, et les personnes précaires pour qui c'était déjà gratuit autrefois. Donc ça, c'est vraiment le gros marqueur de réussite de cette politique-là.
Et justement, cette politique qui vise assez la jeunesse, elle est particulièrement importante à Morpa, parce que Morpa, c'est un quartier qui est prioritaire de la ville, comme vous avez pu le dire, et qui, on a vu dernièrement dans la presse, qui est malheureusement, cette précarité, elle pousse des jeunes... à prendre part au trafic de drogue ou à rejoindre, enfin à faire du deal, quoi. Est-ce que pour vous, c'est un moyen d'empêcher ces jeunes de leur ouvrir d'autres horizons ?
Alors, pas du tout. je vais être très catégorique là-dessus. Et j'en ai déjà discuté pas mal parce qu'on a ce genre de discussion, évidemment. Et j'ai dû réaffirmer auprès des bibliothèques municipales aussi que le but, c'était pas de faire des ateliers lecture aux dealers, en fait. Au bout d'un moment, il y a des sujets de prévention de la délinquance et il y a des sujets de lutte contre la criminalité. Et là, on en est à la lutte contre la criminalité. Et ce sont des mafias internationales qu'on a en face. Enfin, faut réaffirmer ça, en fait. C'est des gros moyens, lutte contre les trafics, les réseaux, la corruption. Enfin, c'est à tous les niveaux. Mais nous, en tant que municipalité, on est en bout de chaîne. Et à la culture, c'est pas notre sujet, en fait. Nous, notre vrai sujet, c'est de pas laisser tomber les habitants. Et quand je vois des conseillers municipaux d'opposition aller caracoler devant Pascal Pro dans un autre studio de radio, pas tout à fait avec la même ligne éditoriale, ceci dit, et aller expliquer qu'on fait n'importe quoi parce que notre but, c'est justement de faire des ateliers lecture aux dealers pour faire baisser la délinquance, il m'a posé la même question un mois avant au conseil municipal et je lui ai déjà répondu, donc c'est preuve de la mauvaise foi aussi. En fait, non, il s'agit juste de ne pas laisser tomber les habitantes et les habitants. Il y a la police et la justice qui fait son boulot et qui met plein d'énergie, j'en suis certaine. Peut-être qu'il y a des revendications de moyens à avoir aussi, mais bref, en tout cas, les gens qui sont sur le terrain, ils font leur job. Mais nous, notre job, c'est pas d'aller dire « Ah, ben en fait, on va faire de la vie dans le quartier et du coup, il y aura moins de deals. » Enfin, on n'est pas naïf à ce point-là, quoi. Non, le but, c'est vraiment de dire aux habitantes et aux habitants de Morpa, on a une action à 360 degrés, on fait tout ce qu'on peut à tous les niveaux en mettant tout ce qu'on peut mettre en œuvre. Et la culture, ça fait partie de vos droits humains, en fait. Donc, on va pas vous laisser tomber dans une époque qui est en plus difficile. Et c'est pas parce que, justement, les gens ont peur de sortir dehors qu'on va en plus fermer des services publics ou retarder leur ouverture. C'est contraire à ce qu'on veut faire.
Super.
Merci beaucoup d'être venu.
Merci.
Avec plaisir. Rendez-vous au Musée des Beaux-Arts.
Rendez-vous au Musée des Beaux-Arts, donc, Station Grosfide.
6 heures avant minuit.
On en parle très en retard, fermeture de la fac oblige, mais ce film est tellement bien qu'on a décidé de quand même vous diffuser la chronique ciné de Gwen. Sorti le 25 décembre 2024, ce n'est pourtant pas vraiment un film de Noël, n'est-ce pas Gwen ?
Non, vraiment pas. Si je vous dis Aïe, Vampire, Dracula ? Eh oui, aujourd'hui on parle de Nosferatu, le long métrage de Robert Eggers qui a fait beaucoup parler de lui. Dans les médias, la critique est majoritairement positive. Par exemple, selon France Culture, Robert Eggers s'attaque à un chef-d'œuvre du cinéma avec une distribution remarquable et remporte la mise. Et c'est vrai que le casting est pas mal stylé. C'est Bill Skarsgård qui incarne le comte Orlok, c'est lui qui jouait dans Ça de Andrés Muschietti. Mais celle qui s'est retrouvée sous le feu des projecteurs, c'est Lily Rose Depp dans le rôle de Hélène Hutter. Nosferatu est une fable gothique, l'histoire d'une obsession entre une jeune femme tourmentée et le terrifiant vampire qui s'en était pris, avec toute l'horreur qu'elle va répandre dans son sillage. Le synopsis d'Allociné fait envie.
Viens à moi. J'ai vu notre mariage. Quand nous nous sommes retournés, tout le monde était mort. L'odeur de leurs cadavres était horrible. Et devant moi, se tenait la mort. Mais je n'avais jamais connu un tel bonheur.
Ouais, comme vous, j'ai un peu flippé et il se pourrait que je sois allée acheter un stock de gousses d'ail, mais juste au cas où. Ce film, c'est un combo choc entre son réalisateur, son histoire qui n'est pas celle de Dracula et son personnage féminin. Le réalisateur, déjà, n'est pas inconnu. Robert Eggers est une célébrité pour les amateuristes du cinéma d'horreur, notamment avec The Witch et The Northman. La photographie, la mise en scène, l'ambiance de Nosferatu retranscrivent la signature de Robert Eggers qui réussit merveilleusement bien à créer l'épouvante. Ensuite, on note que le film s'appelle Nosferatu et non pas Dracula. Nosferatu, ce serait un mot d'Europe de l'Est signifiant vampire. L'histoire se passe en Allemagne et non en Angleterre et à une époque antérieure à celle du roman de Stoker. Les personnages principaux deviennent Thomas et Hélène Hutter et le monstre est rebaptisé Comte Orlok. Choisir le nom de Nosferatu plutôt que celui de Dracula n'est pas anodin. Dracula a été adapté plein de fois et de toutes les manières possibles. Utiliser Nosferatu, c'est se revendiquer d'une autre branche du cinéma et cibler davantage les cinéphiles qui se souviennent de la version de 1922 de Murnau. Je voulais vous mettre un extrait, mais le film est muet. Voilà, donc ce sera juste quelques notes. Le film de 2024 s'inscrit dans la même conception de 1922 du personnage d'Orlok, où des caractéristiques du vampire sont modifiées. Le soleil le détruit totalement, il ne crée pas d'autres vampires, mais se contente de tuer ses victimes, et Orlok est moins charismatique que l'apparence de Dracula. Enfin, la réussite de Nosferatu repose aussi sur le personnage féminin de Hélène Hutter. Lily Rose Depp offre aux spectateurs et spectatrices une véritable performance physique et émotionnelle. Elle brise les codes de la beauté avec une apparence malade, des yeux rouges et des scènes de transe où elle bave et produit des bruits très particuliers. C'est un rôle osé, mais elle l'endosse avec brio. Elle parvient à être mélancolique, effrayante et attachante dès les premières images. L'actrice revient sur sa préparation lors d'une interview du média Combini postée le 12 décembre 2024. On écoute un extrait.
Ça a été vraiment une danse à apprendre, non seulement le mouvement physique, mais de faire un peu le mariage entre le mouvement physique, le niveau émotionnel que demandait le rôle, travailler aussi avec la caméra, avec les autres acteurs, ça a été vraiment un travail d'équipe. On a répété avec le corset parce que ça change tout par rapport à la respiration, au mouvement, c'est extrêmement étouffant un peu.
En plus de tout cela, le film évoque certains des enjeux sociopolitiques autour du statut de la femme au XIXe siècle. Le statut social, la religion, la famille, le désir.
À regarder avec un bon stock d'ail. Merci Gwen. Allô ? Y a quelqu'un au bout du fil ?
Le téléphone.
Téléphone !
Allô ? Allô ?
Syllabe, la radio sauvage.
Pas de message sur notre répondeur ce soir, mais n'hésitez pas, hein, Cyriane.
S'il vous plaît.
Ouais, lâchez tout. Libre antenne, si vous avez un truc à nous dire, un retour sur notre émission, une idée de sujet, voilà, vous pouvez tout nous dire au 02 30 96 25 35 et votre message sera diffusé à la fin de cette émission. Juste avant qu'on se quitte, je voulais vous dire que Syllab vous propose un nouveau jeu concours. Vous pouvez gagner 2 places pour la Rennes Boxing Night. Ça se passe, ouais, ça se passe le samedi 22 février prochain à 19h à la salle Colette Besson à Rennes. Ce super gala de boxe anglaise est organisé par le groupe sportif boxe anglaise du Cercle Paul Bert, premier club en nombre de licenciés d'Ille-et-Vilaine, pour votre information. Pour gagner, vous aurez besoin d'un mot de passe. Le mot de passe, c'est...
Ring. C'est ça, hein ?
Ring. Ouais, ouais. Mmh. Rendez-vous sur le ring, donc, pour jouer et... non. Rendez-vous sur c-lab.fr plutôt. Hein. Merci Timothée.
Il va falloir se battre.
Merci Timothée par la... Non, peace and love.
Peace and love.
Merci Timothée pour la technique et puis à demain.
Si, love. La radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs de Doha !
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab, la radio sauvage.